Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Juliette Gadeau, mais également Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, réalisé par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Nous allons parler aujourd'hui de l'Inde. Les anciens textes védiques, qui selon la tradition ont été révélés puis transmis oralement de Brahman en Brahman, enseignent une division de la société hindoue en quatre varnas, des classes, des ordres, les Brahmanes, donc les prêtres, les Kshatriyas, les guerriers, les Vaishyas, les artisans et les marchands, et les Shudras, les serviteurs. Mais en réalité, le système est beaucoup plus complexe et recouvre des centaines de groupes. À ses marges, les Dalits, les intouchables, un groupe d'individus qui, selon la version la plus couramment acceptée, est issu des tribus qui vivaient en Inde avant l'invasion aryenne et qui aujourd'hui fait l'objet de discrimination et de violence récurrente. Inde, la tectonique des castes, c'est notre sujet ce matin.
Si nous envoyons nos enfants à l'école, ils les mettent à l'écart et les gardent séparés de leurs enfants à cause de l'intouchabilité. Ils disent hey, « Asseyez-vous dans ce coin et pas ailleurs ».
Ne sommes-nous pas des humains ? À l'école, ils me disent « Fulkan, tu n'es qu'un Dalit ».
Dans les fêtes communautaires, ils ne mangent pas avec nous. Bien sûr, ils ne mangeront jamais avec nous. Comment pourraient-ils ? Ils sont pandas, brahmines, et nous ne sommes que dalits.
Si vous avez un problème, si vous voulez attaquer quelqu'un, attaquez-moi, pas mes frères dalits. Si vous voulez tuer quelqu'un, tuez-moi, pas mes frères dalits. Cette caste a souffert pendant des siècles. Allons-nous les forcer à souffrir plus ? Je veux dire au peuple que la discrimination est inacceptable. Nous devons arrêter cela.
Voilà, on entendait à l'instant le Premier ministre Narendra Modi qui, après les manifestations de cet été, prenait la défense des Dalits. L'été dernier, l'Inde a été le théâtre de plusieurs manifestations d'intouchables. À l'origine de ce mouvement de masse, le tabassage de plusieurs d'entre eux par une brigade de protection des vaches dans l'état du Gujarat. On leur reprochait d'avoir tué un bovin alors qu'ils étaient en train de l'écarrir, l'abattage des bœufs étant dans cet état interdit à cause de leur caractère sacré. Le 31 juillet dernier, 10 000 Dalits se rassemblaient donc à Ahmedabad, sa capitale, pour protester contre les violences et les discriminations dont ils sont victimes. Comment comprendre que dans un pays dont la constitution rejette officiellement le système de caste, il perdure pourtant ? La démocratie indienne utilise depuis ses débuts la discrimination positive comme outil de réajustement social et économique, des systèmes de quotas qui s'appliquent avant tout à travers cette représentation par les castes. Au moment de la rédaction de la constitution, largement écrite par le docteur Ambedkar, l'un des leaders historiques des Dalits, cette politique était considérée comme une étape nécessaire mais transitoire. Il s'agissait alors de contrebalancer la reproduction des élites et de lutter contre les inégalités sociales. Pourtant, elles se poursuivent toujours aujourd'hui. Avec quel résultat ? Qu'a changé aussi la libéralisation économique dans la possibilité pour les basses caste de s'élever dans la société. Quel poids politique aussi pour les Dalits qui représentent 170 millions de personnes, soit un peu plus de 15% de la population, et comment sont-ils représentés justement ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons avec nous ici en plateau Jean-Luc Racine. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Jean-Luc Racine. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes également au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, de l'EHESS. On a vu cet été, vous avez vu cet été, Jean-Luc Racine, cette multiplication de manifestations très importantes de Dalit, à tel point que le Premier ministre, on l'entendait, a dû prendre la parole. Ces dernières années, et on a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler ensemble plusieurs fois à ce même micro, on avait le sentiment que les Indiens étaient davantage préoccupés par d'autres sujets. Et je pense notamment à la question de la corruption qui avait fait naître ce mouvement très fort autour d'Anna Hazare, ce militant qui s'était mis en grève de la faim pour protester contre la corruption. Est-ce que ces manifestations, elles révèlent une forme de retour de la question des castes en Inde ?
Je ne dirais pas cela parce que jamais la question des castes n'a disparu. Médiatiquement, elle vient sur le devant de la scène quand il y a soit des incidents majeurs, a fortiori quand ils sont suivis, comme ce fut le cas récemment, donc de manifestations de masse. Et vous évoquiez donc des manifestations de masse plus larges encore, d'ailleurs, sur les affaires de corruption il y a quelques années, qui avaient plombé la fin du gouvernement congressiste qui a passé la main aux élections générales de 2014. Mais en réalité, il faut faire la part des choses entre ce que sont les phases de tension et de manifestation, qui relève de l'événement, et puis l'effet structurel. Et dans les questions structurelles, la question des castes, des inégalités, des difficultés à mettre en œuvre une politique d'émancipation qui est inscrite dans la Constitution et qui est inscrite dans le discours des grandes forces politiques sous des formes diverses qui mériteraient analyse du reste. Et donc fondamentalement, cette question, elle est toujours là. Vous l'avez dit, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les Dalits, puisque le mot intouchable est devenu tout à fait politiquement incorrect, et les Dalits, c'est-à-dire c'est un terme de la langue marathi qu'on peut traduire en gros comme les écrasés, c'est un terme auto-revendiqué par les militants, qui au début d'ailleurs de ce mouvement Dalit se sont appelés, ça n'est pas un hasard, les Dalit Panthers, en écho aux Black Panthers américaines, mais bon, le lien s'arrête là. C'est à peu près donc 15% d'une population qui compte aujourd'hui plus d'un milliard 200 millions d'habitants. Donc évidemment, ça fait du monde. Si on y ajoute ce qu'on appelle les tribaux, les aborigènes, c'est encore à peu près 7%, 8%. Tout cela donc est important aussi pour les politiques, parce qu'on est en Inde et que tout le monde vote.
Et alors, justement, c'est important pour les politiques, vous le dites. Pourquoi Modi a pris la parole pour défendre les Dalits ? Est-ce que c'est dans un pur esprit d'apaisement, ou est-ce qu'il y a aussi derrière peut-être les désirs, l'ambition de séduire cet électorat décisif, vous le rappeliez, quasiment 15% de la population?
Vous pouvez enlever le peut-être. Il est clair que Narendra Modi est là dans une position délicate, puisque les brigades qui montent à l'assaut des Dalits après que ce qu'on appelle le Sangh Parivar, c'est-à-dire la famille du nationalisme hindou, dont le BJP au pouvoir avec Narendra Modi aujourd'hui n'est que le bras politique. C'est dans ce creuset idéologique donc que se sont nourries ces brigades qui ont réussi à interdire l'abattage des vaches, en mettant d'ailleurs sur le carreau toute la filière économique qui, pour l'essentiel, est constituée précisément de Dalits, puisque tout ce qui touche à l'abattage est considéré comme impur dans la tradition brahmanique. Donc d'un côté, Narendra Modi appartient à la même famille dont certaines branches se livrent à ces débordements violents, qui ont mis dans la rue des dizaines de milliers de personnes. Et de l'autre côté, il courtise assidûment ces Dalits comme beaucoup d'autres. Et le meilleur exemple en est, évidemment, vous aviez évoqué Ambedkar, donc, qui présidait le comité chargé de rédiger la Constitution entre 1947 et 1950. Ambedkar, qui est la figure emblématique des Dalits et qui lui-même, c'est toute une histoire individuelle exceptionnelle qui est passée par Columbia pour faire son droit. Le Premier ministre et le parti qui est derrière lui ont fait d'Ambedkar un de leurs héros, simplement, évidemment, pour pouvoir séduire un électorat Dalit qui, en principe, pouvait avoir quelques hésitations vis-à-vis d'un mouvement dont les origines socio-économiques proviennent plutôt de la petite middle class, mais en tout cas de castes qui ne sont pas d'anciens intouchables.
On va revenir sur, évidemment, cette question de la représentation politique, parce qu'il existe aussi des partis spécifiquement Dalits. On va voir avec quel poids dans le paysage politique. Mais je voudrais revenir sur également un fait. Il y a quelques années, il y a eu tout un débat au Parlement indien pour savoir, à propos du recensement de la population, pour savoir s'il fallait ou pas prendre en compte l'appartenance à la caste. Finalement, on avait choisi de permettre justement l'organisation de ce qu'était le premier recensement complet des castes depuis la fin de la colonisation britannique, considérant qu'il devrait permettre de mieux adapter les politiques de développement en faveur des groupes, disons, les castes les plus basses, les groupes les plus démunis. Donc on voit bien que d'une situation qu'on pensait en réalité transitoire, on va y revenir, mais le pays continue finalement de devoir s'appuyer sur le système de castes pour le combattre. C'est-à-dire qu'on construit la lutte contre les castes à partir de sa reconnaissance.
Oui, c'est inévitable.
C'est un peu paradoxal.
C'est peut-être paradoxal, mais c'est fondamentalement...
C'est le principe de la positive action.
Ah, oui, c'est absolument indispensable. Le débat qui, à mon sens, n'est pas encore tranché, puisque le dernier recensement indien, décennal, toutes les années en un, depuis des décennies et des décennies, le dernier recensement qui a pris en compte l'appartenance des castes de tout le monde, du haut en bas de la hiérarchie traditionnelle, a été fait en 1931, sous les Britanniques. 41 guerres, il n'y a pas eu, et à partir de 1951, l'Inde indépendante, elle a sa constitution, elle tient compte de certaines catégories. Elle tient compte de ce qu'on appelle les castes répertoriées et les tribus répertoriées, ce qui est une litote pour dire en gros les intouchables, on ne disait pas encore Dalit à ce moment-là, et les tribus. Ceux-là sont répertoriés. Ils sont répertoriés parce qu'ils bénéficient d'une politique de discrimination positive. Le débat qui a eu lieu il y a quelque temps pour savoir s'il fallait ou non étendre à toute la société cette identification officielle par la caste, c'est un débat qui n'est pas véritablement tranché, parce que ce qui est en cause ici, ça n'est plus simplement une discrimination positive en faveur des plus abaissés, mais c'est aussi d'identifier ceux qui sont au-dessus et qu'on a appelé depuis plusieurs décennies maintenant les autres castes arriérées, OBC, Over Backward Classes, où on a mis classes, mais en fait il s'agit bien de castes. Parce que on est dans un système évidemment de compétition pour l'emploi, et en particulier pour l'emploi public, l'emploi de fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires des États de l'Union indienne ou les fonctionnaires du gouvernement central, avec donc cette grande catégorie des castes intermédiaires, qui bénéficient aussi aujourd'hui d'une part d'emplois réservés. Donc la question, évidemment, c'est comme l'identification des attaches ethnolinguistiques. C'est toujours le document qui sort le dernier dans le recensement, parce que ce sont des sujets sensibles. Mais là, c'est encore plus sensible, car il ne s'agit pas simplement de questions identitaires, il s'agit aussi de la course à l'emploi et à l'emploi réservé.
On va y revenir bien sûr tout de suite. On parlait du docteur Ambedkar, donc le leader des intouchables, juriste de formation, le principal rédacteur de la Constitution indienne, qui est décédé il y a maintenant 60 ans exactement.
Le principal est by persuasion, by moral teaching, by love. He wants to conquer his opponents.
Voilà, c'est une vieille archive qu'on entend, plus de 60 ans, oui. Jean-Luc Racine.
Bravo.
Alors, le docteur Ambedkar, il s'est beaucoup opposé à Gandhi sur la question de l'intouchabilité du système de castes. Gandhi, lui, trouvait que les castes constituaient finalement un système qui permettait de trouver une certaine harmonie dans la société indienne, alors qu'Ambedkar, lui, voulait carrément l'abolir, lutter pour l'émancipation des Dalits. Alors finalement, c'est l'ambition de Gandhi qui a survécu, puisque les castes existent toujours aujourd'hui. Mais Ambedkar a quand même obtenu gain de cause, en ce sens qu'à terme, l'Inde a quand même mis en place des systèmes de quotas. Faisons un petit saut dans le temps. 1979, on met en place une commission, la commission Mandal, dans le but d'identifier les populations les plus défavorisées, de voir comment il était possible d'établir justement des quotas en faveur des classes inférieures, les fameuses OBC, Other Backward Classes, les autres classes retardées, arriérées, pourrait-on traduire. Quelles sont les conclusions de cette commission? Quelles sont les décisions politiques qui vont en découler? Et avec quels effets? Jean-Luc Racine.
Il faut d'abord se rappeler que, au tout départ, la politique de réservation devait concerner uniquement ce qu'on appelle aujourd'hui les Dalits et les tribus, pour 10 ans. Ça n'avait aucun sens. Ça n'est évidemment pas en 10 ans qu'on met à bas un système millénaire, ou à tout le moins... qu'on rebat les cartes pour que le principe des emplois à la disposition de tous puisse être rempli. Donc évidemment, le système a perduré, avec un certain nombre de mécontents qui sont ceux qui sont assez bas dans la hiérarchie, mais pas dalits, et qui ont vu avec déplaisir les bénéfices de la discrimination positive. On peut discuter d'ailleurs sur le degré de réalité de ces bénéfices, et c'est une des questions qui est sur la table de longue date. Mais donc il y a eu des demandes répétées d'étendre le principe de réservation. Et la commission Mandal avait pour but, non pas de vérifier simplement qui était dalit et qui ne l'était pas, mais d'aller au-delà. Et cette commission a été enterrée pendant longtemps, jusqu'à, enfin son rapport du moins, jusqu'à ce qu'il ressorte au début des années 90, à la demande donc du gouvernement central, pour précisément étendre le principe des réservations dans les emplois de fonctionnaires du gouvernement central. Et là, il faut quand même toujours se rappeler que l'Inde étant une union d'États, dont la Constitution ne dit pas fédération, mais de facto c'est une fédération, mais avec un centre particulièrement fort, beaucoup d'États ont avancé, ont mis en place un système de réservation beaucoup plus fort.
Et d'ailleurs, qui ne s'appuyait pas seulement sur les castes, parce qu'il y a eu aussi, par exemple, des quotas, des fameuses politiques de réservation destinées aux femmes, par exemple.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est venu plus tard. Et le principe...
C'est les années 90, aussi.
Oui. Ah oui, oui. Oui. Mais la question des réservations, c'est d'abord posée pour
dès 79,
des catégories sociales. La question de réservation pour les femmes, c'est posée plus tard, et essentiellement pour des instances politiques. Hein, que ce soit dans les panchayats villageois, c'est pas que ce soit dans les panchayats villageois, c'est essentiellement dans les niveaux les plus bas de la structure de l'administration politique, alors que ces messieurs du Parlement ont toujours réussi à bloquer l'extension de ce principe de réservation pour les femmes pour le Parlement central.
On va revenir dans un instant à la question de la représentation politique, mais encore un mot, parce que, évidemment, c'est pas facile d'échapper, j'allais dire, à ce statut de dalit, mais c'est possible. Il y a, par exemple, un moyen, c'est la conversion. Celui qui se convertit au bouddhisme, à l'islam, au christianisme, quitte ce groupe des intouchables des dalits. Dès le 19e siècle, d'ailleurs, on observe des grandes vagues de conversion de masse au bouddhisme, et puis plus tard, évidemment, là, pour le coup, c'est le docteur Ambedkar qui va lancer, lui, une conversion de masse vers le bouddhisme. Je crois que c'est à peu près un demi-million de ses semblables, de dalits, qui vont se convertir au bouddhisme, cherchant par là à dépasser, d'une certaine manière, ce système de caste. Est-ce que cette conversion, elle est encore utilisée pour échapper au groupe des intouchables aujourd'hui ?
Oui et non, elle est encore utilisée, mais pas de façon absolument décisive. La question de la conversion au bouddhisme d'Ambedkar, qui s'est lui-même converti au bouddhisme vraiment à la fin de sa vie, quelques mois avant sa mort, renvoie au débat que vous aviez évoqué entre Ambedkar et Gandhi. Gandhi considérait que l'intouchabilité était une aberration du système des castes. Un peu comme certains communistes ont considéré que le stalinisme était une aberration du léninisme, si je peux me permettre cette comparaison. Ambedkar est absolument pas sur cette ligne. Ce qu'il veut, et il a écrit un texte célèbre qui a été réédité et abondamment commenté récemment, qui s'appelle « Annihiler la caste », c'est-à-dire « la faire disparaître ». Puisqu'il considère que l'intouchabilité, ça n'est pas une malheureuse dérive du système des castes et de l'hindouisme, c'est intrinsèquement une part de ce système qui régit la société sur un ordre hiérarchique de pureté présumée. Donc évidemment, se convertir au bouddhisme, c'est une façon de sortir du giron de l'hindouisme. Sauf que tout le monde sait, dans l'Inde aujourd'hui, que ceux qu'on appelle les néo-bouddhistes sont en réalité
Des dalits.
Et les choses vont beaucoup plus loin, puisque si on pense à la minorité chrétienne, c'est à peu près de 2-3% de la population. Pendant très longtemps, l'intouchabilité a persisté chez les convertis. Moi, j'ai encore vu dans les années 70 des églises où les convertis dalits, ils étaient à l'arrière. Bon, tout ça est en train d'évoluer. Mmh. Il y a d'ailleurs des groupes de jésuites. Non,
je me pose la question parce qu'avec l'arrivée
qui milite là-dessus, ouais,
avec l'arrivée du BJP, qui est un parti nationaliste hindou, avec aussi cette utilisation, on l'avait entendu durant la campagne de Narendra Modi, d'un sentiment anti-musulman extrêmement fort, on pourrait penser que le BJP joue précisément sur cette corde, tente de convertir un certain nombre de dalits à l'hindouisme pour faire davantage de poids face aux musulmans. Ça pourrait être une option politique.
Mais faire davantage de poids aux musulmans, les hindous, c'est plus de 80% de la population.
Ouais, donc c'est pas utile, c'est ça que vous voulez dire.
Non, c'est pas ça. La question, c'est que le mouvement nationaliste hindou et sa matrice idéologique, qu'on appelle le RSS, l'Association des Serviteurs de la Nation, sont face à un dilemme. Ils sont absolument majoritaires. L'histoire de l'Inde a été écrite dans ses premiers millénaires par eux. Bon, est venue ensuite, évidemment, l'entrée de l'islam, puis le colonialisme et les missionnaires chrétiens. Le problème pour eux, c'est que la plupart de leurs idéologues viennent de castes raisonnablement hautes, voire hautes dans la hiérarchie. Alors que, d'ailleurs, certains de ces idéologues n'étaient absolument pas des hindous pratiquants. Pour eux, l'hindouisme, c'était une carte d'identité nationale, liée à l'histoire, liée à l'idéologie, liée au sol de l'Inde, la mère Inde. Ce n'est pas la patrie, c'est la matrice, si j'ose dire. Et le problème, c'est que cette communauté hindoue majoritaire, très majoritaire, est précisément divisé par les castes. Donc, et aujourd'hui, on le voit tout particulièrement, et c'est bien pour ça que le mouvement nationaliste hindou n'a pas hésité à s'approprier Ambedkar, non sans un certain culot, je dirais, puisqu'il s'approprie celui-là même qui a voulu détruire l'hindouisme, qui pour eux, en bonne logique, et l'ADN de la nation indienne. Donc tout ça est évidemment très compliqué, mais ça peut se manifester très simplement et très brutalement, comme on l'a vu dans cette bastonnade donc de militants ultra qui se sont déchaînés contre ces malheureux dalits soupçonnés d'avoir tué une vache ou un bœuf, peu importe. Si c'est une vache, c'est encore pire. Et qui ont eu l'outrecuidance, évidemment, on est moderne, de filmer ça sur leur téléphone portable, sans du tout imaginer que
c'est comme ça qu'ils se sont fait prendre.
Ah oui, ouais. Que ça allait déclencher de telles agitations.
Jean-Luc Racine, sur la question de la représentation politique, il a fallu attendre les années, parce qu'il y en a eu quelques-uns avant, mais c'est les années 80-90 qui vont voir émerger un parti politique dalit durablement, le Bahujan Samaj Party, le parti de la société majoritaire en hindi. Il a été fondé en 1984 par Kanshi Ram, qui est un homme qui a bénéficié de la politique de discrimination pour rentrer dans le secteur public, pour s'engager dans un syndicat qui regroupait des dalits sur lequel il s'est appuyé pour créer ce parti. Aujourd'hui, il est dirigé par sa protégée, qui est une femme, qui est Mayahati Kumari, qui est devenue la ministre en chef de l'Uttar Pradesh, qui est l'état le plus peuplé de l'Union indienne. Elle est la première femme dalit à accéder à un tel poste, un poste de chief minister.
Du plus grand État indien.
Du plus grand État
200
indien.
200 millions d'habitants.
Ça veut donc dire plusieurs choses. D'abord, un, que le parti dalit, il est quand même suffisamment puissant pour être en situation de diriger des États, et pas n'importe lequel, le plus grand de tous. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu des avancées concrètement sur le terrain, par exemple, en particulier du côté de l'Uttar Pradesh, pour les dalits?
Alors, d'abord, il n'y a pas un parti dalit.
Mais celui-ci a été reconnu comme parti national, ce qui fait peut-être la différence avec les autres.
Non, mais c'est une question purement administrative. Mm-hmm. Y a des règles très précises pour qu'un parti qui, au départ, est soit un parti d'idéologie régionaliste, soit un parti qui n'est pas régionaliste en soi, mais qui n'a qu'une assise régionale dans un ou deux États, s'il est capable d'avoir un petit nombre de députés dans un nombre X d'États, ça fait partie de la réglementation que je ne connais pas sur le bout des doigts, à ce moment-là, il peut être classé comme parti national.
Ce qui est le cas pour le BSP.
Bahujan Samaj Party. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il est véritablement une emprise ou une implantation nationale. L'un des problèmes, justement, de la politisation des Dalits, c'est qu'elle est fragmentée. Le BSP a une aura particulière parce que, par trois fois, Mayavati est devenu chef du gouvernement du plus grand État indien. La plupart du temps, d'ailleurs, elle n'a pas accompli la totalité de son mandat. Mais il y a eu une véritable dynamique. Il y a eu une montée emblématique en puissance. Mais quand on prend l'Inde dans son ensemble, on a le parti républicain qui est le parti héritier direct d'Ambedkar, qui ne compte que quelques représentants ici ou là. Et quand on prend certains États où la population dalit est importante, je pense au Tamil Nadu que je connais peut-être moins mal que d'autres, il y a deux très grandes communautés dalit, chacune a un parti politique. Mmh.
Donc, pourquoi cette impossibilité justement de créer une dynamique à l'échelle nationale? Parce que effectivement, vous avez raison. Vous rappelez que finalement, ce parti-là, il n'a qu'une assise régionale, bien qu'il soit un parti national. 2009, regardons les résultats qu'il fait. Il fait 6% des suffrages. Donc effectivement, on est toujours en présence d'un paysage politique assez largement bipartite, et on n'arrive pas à voir émerger. On ne voit pas émerger de parti national dalit suffisamment fort pour prétendre à jouer un rôle au niveau de l'Union.
Alors, on peut avancer prudemment des hypothèses. La première appelle un constat qu'il faut rappeler, on l'a dit, 1 milliard 200 millions d'habitants. La caste, c'est une structure sociale endogame, c'est-à-dire qu'elle a une implantation géographique. Il peut y avoir des équivalences dans les niveaux de caste entre l'Inde du Nord, l'Inde du Sud, l'Inde de l'Ouest, etc. Mais la caste à laquelle Monsieur X ou Madame Y appartient, elle a un nom et elle a un territoire, pour l'essentiel. Et je pense que cet émiettement, en quelque sorte, qui vient de la nature même de la caste. Une endogamie, ça se définit par un espace où les gens peuvent se marier entre eux. Donc ça ne couvre pas tout le territoire indien, dans la tradition et encore pour une large part dans la réalité d'aujourd'hui. Et, on a donc là une difficulté qu'il est toujours difficile de surmonter, d'autant plus que pendant longtemps, la majorité des Dalits votaient pour un parti qui n'était pas un parti Dalit, mais qui était le parti du Congrès. Le parti dominant qui avait une vocation première d'être un parti attrape-tout. Des Dalits aux Brahmanes en passant par les musulmans. La montée en puissance de partis spécifiquement Dalits a contribué à l'affaiblissement et le mot est...
À l'échec du Parti du Congrès,
disons-le. On peut le dire, à l'échec du Parti du Congrès, particulièrement en Inde du Nord et dans la vallée du Gange. Or, que ce soit le Bihar, que ce soit l'Uttar Pradesh, ce sont des partis qui ont plus de 100 millions d'habitants, 200 millions d'habitants. C'est-à-dire, non seulement ils pèsent lourd en eux-mêmes, mais ils pèsent aussi dans la représentation qu'ils ont au Parlement central. Et l'affaiblissement du Congrès qui a perdu à la fois une bonne part de l'électorat dalit et de l'électorat musulman dans ces États de l'Inde du Nord explique l'impasse dans laquelle il se trouve aujourd'hui.
Et on comprendra bien pourquoi, dans ce contexte-là, Narendra Modi essaye de séduire les Dalits, voilà, puisque ça lui assure une victoire.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour des minorités. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Inde, la tectonique des castes et en particulier à la question de la mobilité sociale. On est avec Jean-Luc Racine et on va voir si finalement le marché, la libéralisation économique a permis d'une certaine manière l'émancipation des castes. L'Inde vient tout juste de fêter le 25e anniversaire des réformes libérales qui ont mis un terme à ce qu'on appelait le license raj, c'est-à-dire ce système d'autorisation administrative par lequel l'État régulait la capacité de production des entreprises privées. Est-ce que la libéralisation a conduit à l'émancipation des castes? En tout cas, certains individus des castes inférieures ont connu des ascensions fulgurantes. C'est le cas par exemple de cet homme, Hari Pipal.
Ça c'était ma vie, un des métiers par lesquels j'ai commencé, vélo rickshaw. Et maintenant, regardez, j'ai une voiture avec chauffeur. Ça c'est mon empire, mon concessionnaire moto, mon hôpital et mon journal. Moi ça va, j'ai réussi, mais ma responsabilité envers ma communauté ne s'arrête pas là. Je dois faire quelque chose, je dois aider d'autres intouchables.
Il est une source d'inspiration pour nous tous. Moi aussi plus tard je veux lancer ma propre affaire.
Les choses ont un peu changé. Officiellement, tout le monde va à l'école, mais le gouvernement doit faire plus pour aider ces gens.
Voilà, Hari Pipal, né sur le trottoir, un homme qui appartient à la caste des Dalits, qui a été conducteur de rickshaw pour participer aux efforts d'une famille qui comptait 15 enfants. Aujourd'hui, il dirige un hôpital privé, une usine de chaussures, une concession de motos, mais aussi des restaurants. Bref, il incarne cette réussite et peut-être aussi l'évolution d'une société indienne qui deviendrait plus égalitaire. On va retrouver un nouvel invité par téléphone depuis Delhi, c'est Jules Naudet. Bonjour Jules Naudet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes un spécialiste de cette question de la mobilité sociale. Alors, vous avez fait des travaux en France, aux États-Unis, mais aussi en Inde. Vous êtes actuellement en poste. Vous avez créé un ouvrage donc consacré à cette question-là. Vous avez rencontré un certain nombre de Dalits, devenus hauts fonctionnaires, professeurs, cadres supérieurs. Je vais vous poser la question de façon extrêmement large et brutale. D'une manière générale, est-ce que vous diriez que la libéralisation de l'économie indienne a eu un effet d'émancipation pour les basses castes? Jules Naudet.
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière simple, parce que les choses ont certes évolué. Il y a maintenant de la place pour un peu plus de mobilité, comme l'exemple que vous venez de diffuser le montre, mais on n'a pas non plus complètement rebattu les cartes. Ce qui est sûr, c'est que en Inde, on a toujours une très grande fermeture qui est lié à la caste. On a deux échelles pour juger la valeur du statut social d'un individu en Inde, qui sont deux échelles contradictoires. On va avoir un statut qui est défini par la pureté rituelle de la caste, une question que vous avez, je crois, déjà discutée dans cette émission. Alors là, sur cette échelle-là, on ne peut pas vraiment bouger. On est dans une caste et on est censé y rester toute sa vie. Mais il y a aussi le prestige tel qu'il peut être défini par la profession. Et là-dessus, il y a place pour un petit peu plus de mobilité. L'évolution qui s'est ouverte depuis l'indépendance est une évolution vers une réduction de la congruence entre caste et classe, notamment du fait des politiques de réservation, de discrimination positive, qui ont permis de rendre plus fréquents les cas dans lesquels le statut social et la position occupée dans la société ne sont pas liés directement à la caste. Mais je crois qu'il ne faut pas pour autant faire preuve d'un excès d'optimisme. Le critère de la caste est certes de moins en moins légitime pour juger de la valeur d'un individu, malgré tout, les mobilités qui existent sont quand même en grande partie liées au rôle des politiques de réservation qui ont ouvert des voies de mobilité pour les personnes donc issues des castes traditionnellement les plus modestes. Mais quand on regarde les niveaux de mobilité sociale en Inde, on s'aperçoit que ceux-ci demeurent très faibles en comparaison à ceux de la plupart des pays occidentaux.
Ça reste absolument marginal. Et il y a un résultat qui est peut-être le plus original de tout ce que vous avez, de tous les résultats que vous avez obtenus dans vos travaux, et vous dites un résultat qui va peut-être à l'encontre de ce que nous observons en termes de mobilité sociale en Occident. Vous dites l'ajustement identitaire au nouveau statut social ne semble pas être un véritable problème. C'est-à-dire qu'en gros, la mobilité sociale n'a pas d'influence sur son sentiment identitaire et sur son rapport à son groupe d'origine. Vous dites que même en réalité, c'est leur identité, en l'occurrence de Dalit, qui va construire leur expérience de mobilité, le récit de la mobilité sociale. Il s'inscrit pleinement dans la revendication de son appartenance à tel ou tel groupe, à telle ou telle caste.
Alors, je le reformulerai différemment en disant que il y a la mobilité sociale en Inde, comme en France, comme aux États-Unis, comme partout, elle implique une certaine tension pour les individus qui en font l'expérience, une tension entre le groupe d'origine, le groupe d'arrivée. Il y a besoin de s'adapter. Simplement, la gestion de cette tension, dans le cas indien, elle va être gérée de manière prise en charge de manière collective, en quelque sorte, par l'idéologie dalit, en particulier pour les dalits. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la fermeture de la société indienne qu'on évoquait, combinée à la prégnance de la discrimination basée sur la caste, va donner lieu au fait que, malgré leur réussite, les dalits en forte mobilité sociale continuent d'être considérés comme des intouchables. Et je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée, qui était fils d'un travailleur sans terre, issu d'une caste traditionnellement considérée comme intouchable.
Anil, c'était son prénom.
Anil, je crois que vous m'avez lu de près, mais qui, malgré son diplôme d'université de l'Ivy League, malgré le fait qu'il était consultant pour un cabinet international de grande réputation, m'avouait avoir peur de revenir dans son village d'origine. Mmh. Et donc, face à cette difficulté à se faire accepter au sein de son nouveau groupe, les dalits en mobilité sociale hésitent souvent entre deux stratégies. La première, ça consiste à dissimuler ses origines de caste, à chercher à effacer toute marque d'appartenance au groupe duquel on vient, et puis à faire un peu d'entrisme, quoi, à essayer de s'approprier les façons de faire, de penser du nouveau groupe. Ça, c'est quand même assez difficile à réaliser, mais dans le secteur privé, c'est quand même finalement une stratégie assez fréquente. Puis la seconde stratégie, qui est celle qu'on a retrouvée dans l'extrait que vous avez diffusé, elle consiste plutôt en la revendication de liens forts avec le milieu d'origine. Et en fait, le poids d'une identité stigmatisée fait que bien souvent, ces personnes vont préférer investir leurs efforts de reconnaissance sociale auprès d'un groupe de caste avec lequel ils partagent une expérience commune de la discrimination, plutôt que auprès d'un groupe de pairs professionnels, de collègues, avec lesquels ils partagent certes certains attributs de caste, mais qui est toujours tenté de les renvoyer à leur identité de caste.
Oui, c'est-à-dire que dans cette deuxième stratégie, finalement, l'ascension d'un individu, elle sert à l'ensemble du groupe. La mobilité sociale d'un individu va permettre, en tout cas c'est l'objectif, l'évolution du groupe dans son ensemble. Jean-Luc Racine, je voudrais peut-être vous entendre, et en particulier sur cette question de ce qu'a changé l'économie de marché, la libéralisation de l'économie indienne sur ce système de caste. Dans les années 90, on a vu cette Inde croître, on a vu l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse, en particulier dans les villes. La croissance économique d'ailleurs de l'Inde se poursuit à des rythmes intéressants, on est à 7% pour 2015, donc tout cela va s'étoffer. Or, la classe moyenne, c'est aussi la convergence d'habitudes de consommation, c'est aussi la convergence d'habitudes culturelles. Est-ce que cette émergence de cette classe moyenne, en particulier urbaine, elle n'a pas un peu remis en cause ce système de caste?
Pas vraiment, à mon sens. Bien sûr, on ne peut absolument pas nier qu'il existe des dynamiques. On peut pas réduire l'exemple qui avait été donné tout à l'heure de cette personne qui a commencé comme tireur de rickshaw dans sa jeunesse et qui a fini chef d'entreprise. Ça n'est pas uniquement l'arbre qui cache la forêt. Et il y a aujourd'hui d'ailleurs des associations d'entrepreneurs dalits qui essaient d'avoir un rôle dans la poursuite de cette dynamique d'émancipation. Mais fondamentalement, l'évolution économique de l'Inde, elle profite à une classe moyenne qui a déjà en main un certain nombre d'atouts au départ. Il ne s'agit pas d'être bourdieusien effréné pour reconnaître que le capital social ou le manque de capital social, ça existe. C'est-à-dire que là, on se retrouve face à la question clé qui se déploie en deux temps. D'une part, combien de Dalits ont-ils véritablement accès à l'éducation jusqu'à soit compléter leur enseignement secondaire, ten plus tout, comme on dit en Inde, soit jusqu'à l'université ou les formations technologiques, école d'ingénieurs, etc. Et parmi eux, ceux qui ont des diplômes, combien vont trouver d'emploi à la hauteur de leur diplôme ? Et il reste un critère qui mérite d'être appelé. Quand on parlait tout à l'heure de « on n'oublie pas d'où on vient, fût-ce de façon douloureuse et on ne s'intègre pas totalement au nouveau milieu dans lequel on travaille », qui est la question clé de l'endogamie. Est-ce qu'un ingénieur dans une grande compagnie informatique ou l'exemple qui était donné par Jules Naudet de ce Dalit qui travaille dans un grand bureau international d'expertise, avec qui va-t-il se marier ? Est-ce qu'il va se marier avec une de ses collègues issue d'une bonne caste ?
Oui, ça repousse le problème.
C'est une question. C'est pas impossible.
Oui.
Hein,
mais ça peut arriver. Mais c'est pas garanti. Jules Naudet, une toute dernière question, peut-être. Harry Pipal, qu'on a entendu tout à l'heure, lui, il dit que le gouvernement devrait avoir recours à des politiques de discrimination positive dans les entreprises. Est-ce que vous pensez que ce serait de nature, précisément, à améliorer le sort des Dalits, à permettre peut-être d'aller vers plus de mobilité sociale pour ce groupe-là?
C'est sûr que ça ouvrirait de nouvelles voies de mobilité pour les Dalits, mais ça créerait aussi, dans le même temps, une augmentation des tensions internes à la société indienne, parce que la question des réservations est vraiment au centre de beaucoup de crispations identitaires, de tensions intercastes. C'est aussi le moteur, le nouvel avatar finalement du castéisme en Inde, qui s'articule aujourd'hui autour d'une rhétorique du mérite. Parce que ce système de réservation, il provoque de nombreuses frustrations pour des classes moyennes qui le voient comme une entorse au principe de mérite, qui nourrissent un ressentiment très fort à l'encontre des basses castes dont les enfants peuvent entrer dans des universités ou obtenir des postes de la fonction publique avec des résultats inférieurs à ceux de leurs enfants qui n'ont pas bénéficié de ce coup de pouce. Et c'est ce ressentiment qui a donné lieu récemment à des mobilisations massives et parfois très violentes. Et on a eu des exemples assez récents dans l'actualité avec la mobilisation des JAT dans l'Ariana. Donc,
les JAT qui sont des agriculteurs.
Donc ces réservations dans le secteur privé seraient, je pense, une très bonne chose en termes de mobilité sociale, mais doivent s'accompagner d'un travail de préparation de la société indienne pour les accepter. Parce qu'en l'état des choses aujourd'hui, c'est plutôt source de tension. Puis il ne faut pas oublier aussi que quand on parle d'élargir le spectre des réservations, il ne faut pas voir que les Dalits en tête, mais il y a aussi la question de la minorité musulmane qui a des indicateurs de développement tout aussi désastreux, voire pire que ceux des Dalits, et qui eux ne bénéficient d'aucune réservation. Donc se pose aussi la question de pourquoi pas ouvrir des réservations, des quotas pour
les musulmans. Merci beaucoup. En tout cas, Jules Naudet, on comprend que ça pourrait améliorer les choses, mais que ça serait certainement pas suffisant. Vous étiez avec nous en direct depuis Delhi. Puis je rappellerai votre ouvrage qui date de 2012, Entrée dans l'élite, parcours de réussite en France, aux États-Unis et en Inde. C'était l'Inde qui nous intéressait aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va prendre la direction du Japon, Jean-Luc Racine, parce qu'il n'y a pas qu'en Inde qu'il y a des systèmes de caste. On va parler des Burakamin, littéralement les gens du hameau, qui sont issus de deux groupes qu'on trouve à l'époque du Japon féodal, les Eta, littéralement plein de souillures, et les Inin, les non-humains. Jusqu'à la fin du 19e, leur situation était extrêmement codifiée. Ils n'avaient pas le droit de rester en ville le soir, de manger, de boire en ville et même de rester sur la route quand ils croisaient quelqu'un. Et à l'époque, les Burakamin naissaient Burakamin et ne pouvaient absolument pas changer de groupe. Et puis en 1871, on abolit ce système de caste féodale et on libère, en tout cas en théorie, les Burakamin, leur permettant de s'inscrire sur les registres d'état civil comme nouveaux citoyens. Bonjour Caroline Taïeb.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes en ce moment même à Osaka, vous êtes doctorante en sociologie en co-tutelle internationale avec l'université de Kansai et l'EHESS. Vous revenez d'une enquête de terrain, le Kyushu, pour votre thèse sur les femmes burakamines face à la discrimination sociale. En fait, aujourd'hui, les burakamines n'ont pas complètement disparu, ils font encore l'objet de discrimination. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots d'abord, Caroline Taïeb, quelle forme prend justement cette discrimination pour les burakamines au Japon?
Alors, la discrimination aujourd'hui en 2016, elle est principalement axée, c'est une discrimination dans le mariage, c'est-à-dire que j'ai rencontré dans les entretiens que j'ai menés dans le Kyushu et dans la région du Kansai, plusieurs jeunes qui ne pouvaient pas se marier avec une personne non burakumine parce que la famille s'opposait au mariage pour tout un tas de raisons. Donc ça, c'est vraiment la discrimination la plus importante qui existe encore à l'encontre des burakumines. Et puis ensuite, la discrimination dans l'emploi, elle est plus difficile à percevoir puisqu'il n'y a pas, comme en France ou aux États-Unis, des méthodes de testing qui sont mises en place. En revanche, il m'est arrivé de rencontrer des jeunes burakumines qui avaient été victimes de discrimination, c'est à travers particulièrement leur adresse et leur nom, que les entreprises ont pu les identifier et donc ont refusé de les embaucher.
Vous voulez dire que par l'adresse et par le nom, on est capable d'identifier si vous êtes ou pas burakamine?
Oui, tout à fait. Alors, ces dernières années, c'est vraiment la discrimination sur Internet qui a pris beaucoup d'ampleur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des cartes sur Internet qui circulent où l'emplacement des burakus dans tout le pays sont visibles. Donc, les entreprises ont la possibilité de se référer à ces cartes et de savoir, quand elles reçoivent un CV, si cette personne est issue d'un burakou ou non.
Avant, les burakumines, ils vivaient dans les hameaux. C'est comme de là qu'ils tiennent leur nom. Donc, c'était un peu à l'extérieur des villes, un peu à l'extérieur des villages. Est-ce que cette ségrégation spatiale, elle existe toujours?
Alors, donc le mot burakumin, c'est un mot japonais qui est composé du mot buraku qui signifie hameau, village, et min signifie en japonais habitant. Donc les burakumin sont les habitants du buraku. Cette ségrégation spatiale, je dirais que elle est plus aussi forte, c'est-à-dire qu'en fait les buraku sont des lieux de passage. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du buraku qui emménagent. Et il y a une espèce d'invisibilité des burakus puisqu'ils ont été restaurés avec les mesures d'assimilation en 1969. Donc, ils ne se distinguent plus par leur insalubrité comme ça a été autrefois. Cependant, les personnes qui habitent autour du buraku, en effet, savent reconnaître si l'endroit près duquel elles habitent est un buraku ou non.
Alors, Caroline Taïeb, vous disiez, c'est une discrimination qu'on voit notamment sur la question de la recherche d'emploi, sur la question du mariage. C'est quand même une question très importante au Japon. On n'a pas exactement des chiffres très précis, mais on parle de 2 millions de personnes. Il y a même un rapport de 1993 qui évoquait le chiffre de 4,5 millions de personnes. Donc c'est absolument considérable. Comment est-ce que les politiques appréhendent-ils ces questions de discrimination? Est-ce que c'est totalement tabou ou est-ce qu'il y a quand même un effort pour lutter contre les discriminations dont ils font l'objet?
Alors, donc déjà, en ce qui concerne le nombre de burakumines dans tout le pays, il y a une enquête qui a été réalisée en 93, donc c'est les derniers chiffres qu'on possède, une enquête de 93 qui dénombre le nombre de burakumines à 900 000 individus, et dans tout le pays, il y aurait 4 000 burakus qui auraient été rénovés, dont 6 000 qui n'ont pas été rénovés.
Bon, mais 1 million de personnes, ça reste beaucoup. Est-ce qu'on se préoccupe de ces gens et des discriminations dont ils font l'objet?
Oui, alors à ce sujet, donc il y a en matière juridique, c'est certain déjà que les burakumines ne se sont pas entendus, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans les entretiens, et l'une des revendications de la Ligue de Libération des Burakumines, c'est justement d'établir une loi qui interdirait la discrimination et qui porterait secours aux personnes discriminées tout en leur reconnaissant un statut de victime. Aujourd'hui, en ce qui concerne les lois qui existent, il y a donc en matière juridique des lois qui concernent les atteintes, tout ce qui porte atteinte à l'honneur, mais pas à proprement parler une loi qui interdirait la discrimination envers les burakumines. Cependant, actuellement, c'est en cours de discussion.
D'accord, donc ça pourrait peut-être venir. La Ligue de Libération des Boulakou, qui a été créée en 1955, mais qui prenait déjà la suite d'une entité qui existait, c'était la Ligue des Niveleurs, qui remontait aux années 1920. Toute dernière question, Caroline Taïeb, en quelques mots, et puis la ligne commence un tout petit peu à se dégrader, mais on vous entend encore. Pourquoi finalement le Japon ne parvient pas à se débarrasser d'un système qui officiellement n'existe plus depuis un siècle et demi ? Est-ce que ce sont des raisons qui touchent à un pilier de l'identité nippone, et si oui, lequel? Est-ce qu'il faut aller chercher ça, par exemple, dans du côté de la religion shintoïste, qui est une sorte de déclinaison d'une forme de bouddhisme venu de Chine? Est-ce que c'est là qu'il faut trouver les raisons?
Alors, je ne crois pas, parce qu'en fait, en fonction des époques, les préjugés changent, c'est-à-dire que à l'époque d'Edo, donc dans le Japon pré-moderne, les préjugés qui existaient envers les Burakumin, c'était principalement la peur du mélange de sang, donc il y avait une peur de la souillure, ce qui faisait qu'on les maintenait à l'écart. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce type de préjugés. Ce que j'entends beaucoup dans les entretiens, c'est les Burakumin profitent du système, ils ne travaillent pas, etc. C'est une espèce d'envie vis-à-vis des Burakumin. Donc on voit bien qu'en fonction des époques, les préjugés changent. Et la vraie question à se poser, c'est justement, est-ce que cette discrimination ne serait pas en lien avec la psychologie sociale?
D'accord, les discriminations se transforment en tout cas, mais elles demeurent. Jean-Luc Racine, que vous inspire cet exemple japonais? C'est vrai qu'on parle toujours du système de caste indien, mais beaucoup moins...
Non, moi je me réjouis que cette perspective comparée ait pu être faite. Parce que, évidemment, la spécificité du système des castes indiens est fondamentale, mais la discrimination selon l'origine... La discrimination selon le lieu de résidence, la discrimination à l'emploi où le plafond de verre existe, ça vous rappelle rien?
Alors, oui, on est chez nous, c'est ça que vous voulez dire?
Non, alors c'est pas vraiment ce que je veux dire. Je fais du mauvais esprit.
C'est ce que vous voulez dire.
Non, je fais du mauvais esprit en disant qu'il y a une spécificité liée à la fois au nombre et à la structuration de l'intouchabilité en Inde. Quand les organismes de militants dalits sont allés aux grandes rencontres de l'ONU contre le racisme. Ils ont essayé de faire passer une résolution internationale pour établir une équivalence entre pratique de l'intouchabilité, qui est interdite en Inde. Je rappelle, les castes ne sont pas interdites, n'ont pas été abolies. Ce qui est interdit, c'est la pratique de l'intouchabilité. Ces associations militantes n'ont jamais réussi à faire établir internationalement une identité ou une égalité entre intouchabilité et racisme. Alors évidemment, on peut discuter sans fin, ça n'est pas la même chose, ça n'est pas une question de race, bien entendu. Mais le cœur du problème, c'est comment, dans un système qui bouge, les discriminations traditionnelles persistent en dépit des effets, des efforts qui sont faits pour les atténuer. We're different to the potheads. Smack them together with a fucking bench drop. See, I'm stuck in the same cycle that we're going through every day. Avoiding max trappers, bitches always get in the way. Now I may not be the truest person that you've ever met, but these speakers don't even pass the made in China test. Most of what I said makes no sense to the spot. But fuck it, I go on and on, I'm too hot. It's gone on my... DMC, qui est une chanteuse, rappeuse indienne, hein, c'est ça, vous confirmez, Charles Gargasson? Absolument, il confirme, le réalisateur. Merci beaucoup, en tout cas, à la fois à Caroline Taïeb, qui était avec nous en direct depuis Osaka, et un grand merci à vous, Jean-Luc Racine, de nous avoir éclairé sur cette délicate question des castes qui risque de nous occuper encore quelques années, hein, j'ai bien l'impression. La tectonique va se poursuivre.
C'est tout à fait possible. Merci infiniment, en tout cas, Jean-Luc Racine. About how 11h passé de 53 minutes, l'heure de retrouver notre ami Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on parle de conservatisme britannique depuis le début de la semaine. Vous avez parlé hier de Roger Scruton. Le conservatisme de Roger Scruton, tel qu'il en résume en tout cas la doctrine dans le livre qui vient de paraître, De l'urgence d'être conservateur, est-ce qu'il peut nous aider à comprendre ce que veulent ces 52% d'électeurs britanniques qui ont voté pour le Brexit,
Brice? Absolument Florian. L'un des grands mérites de ce livre, c'est de nous faire percevoir la conception que beaucoup d'Anglais se font de leur nation. Or, elle ne correspond pas exactement à la nôtre, elle est incompatible avec le projet supranational de l'Union européenne. Roger Scruton ne conçoit pas l'exercice de la démocratie hors du cadre national. Parce qu'il est conservateur, la loyauté politique lui paraît dépendre de l'attachement primordial à un lieu familier. La première des choses est le territoire, dit-il. Il réclame que l'on place au cœur de l'oikonomia des Grecs, qui nous a donné notre économie, l'oikophilia, l'amour du foyer. Pas seulement en tant que lieu rassurant, mais aussi ceux qui l'habitent, les nôtres, dont les comportements sont prévisibles parce qu'ils partagent les mêmes habitudes, les mêmes coutumes que nous. Et Scruton de citer « Le lion et la licorne », ce texte magnifique où George Orwell fait l'éloge du patriotisme digne et tranquille des classes populaires britanniques, car leur goût pour le petit jardin qu'on a derrière chez soi, le coin du feu, la bonne tasse de thé, la liberté individuelle, ne les empêche pas, au moment du péril extrême, de faire preuve d'un patriotisme dont les classes dirigeantes et les intellectuels sont, eux, incapables. Les premières par faiblesse, les seconds par affinité pour la trahison. Je cite Orwell. Le patriotisme n'a rien à voir avec le conservatisme, bien au contraire, il s'y oppose, puisqu'il est essentiellement une fidélité à une réalité sans cesse changeante et que l'on sent pourtant mystiquement identique à elle-même. C'est un pont entre le futur et le passé. Aucun révolutionnaire authentique n'a jamais été internationaliste. Voilà ce qu'écrivait en 1940 cet ancien combattant des brigades internationales en Espagne. Mais le conservateur Scruton ne contredit pas le socialiste libertaire Orwell. Pour lui aussi, la nation est une réalité changeante. En tant que forme politique, elle est le grand legs fait par l'Europe au monde. Pour Scruton, la formation des nations et l'autonomie de l'ordre politique envers l'ordre des religions sont congruents. C'est dans ce cadre et dans celui-ci seulement que, je cite, « les hommes gèrent leurs affaires terrestres en adoptant leurs propres lois ». Significativement, dit-il, l'islamisme récuse la nation et lui oppose la communauté des croyants. Et il refuse un ordre politique qui n'est pas ordonné à celui de sa religion. C'est, écrit encore Scruton, que la loi politique s'adapte alors que la loi de Dieu se donne pour immuable. La nation est aussi le lieu où la politique, au sens de recherche du compromis entre intérêts et opinions divers, peut émerger. C'est dans ce cadre qu'on peut protéger les avis minoritaires du risque de la tyrannie majoritaire. C'est dans ce cadre encore qu'on peut demander des comptes aux dirigeants. Sa traductrice, Laetitia Strauss-Barth, fait observer que l'anglais dispose d'un vocabulaire plus riche que le nôtre pour rendre l'idée de responsabilité. Outre responsibility, qui renvoie aux tâches que l'on prend en main, aux devoirs qu'on assume, ils ont aussi accountability, qui renvoie au fait de rendre compte de ce que l'on a effectué. Answerability, le fait de se porter garant de quelque chose, d'en répondre. Et enfin, liability, responsabilité juridique au sens d'engagement qui peut aller jusqu'à l'idée de dette. C'est peut-être parce que nous n'avons pas de moyens lexicaux aussi sophistiqués que nous sommes moins spontanément démocrates.
Et alors l'Union européenne dans tout ça, les peuples y sont représentés par un parlement, pourquoi l'accuser de déficit démocratique ?
Eh bien l'UE cristallise aux yeux de ce conservateur britannique tout ce qu'une démocratie authentique ne doit pas être. Primo, elle n'a pas de frontières, claires et nettes. Or, la démocratie a besoin de frontières, ne serait-ce qu'afin qu'un droit particulier puisse s'y appliquer. Car Scruton ne conçoit pas le droit comme une création ex nihilo, mais comme le produit d'une longue tradition jurisprudentielle à l'anglo-saxonne. L'UE, écrit-il encore, réclame des abandons de souveraineté au profit d'une forme de citoyenneté qu'elle se refuse à incarner dans un lieu qui serait un dépôt de mémoire. Elle n'a pas créé de peuple européen, non seulement parce qu'elle ne l'a pas voulu, mais parce que ce n'était pas possible. Secondo, elle n'est pas démocratique. Elle a engendré, je cite, une classe politique qui n'est plus comptable auprès des citoyens. Elle a remplacé des dirigeants issus du peuple et auxquels on pouvait demander des comptes par une bureaucratie lointaine. Et la subsidiarité, vous me direz, eh ben, on a envie de lui rétorquer en tous les cas, mais il a la réponse toute prête. L'UE pratique la subsidiarité à l'envers, elle concède, elle délègue, mais de haut en bas, alors que les nations authentiques naissent d'un mouvement, d'une réserve de savoir accumulé. Ce sont les solutions qui ont émergé avec le temps.
Merci beaucoup Brice pour cette chronique. On peut retrouver bien sûr sur la page de France Culture, www.franceculture.fr. Je rappelle le livre de Roger Scruton, De l'urgence d'être conservateur, qui vient de paraître. Merci beaucoup Brice, à demain.